Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de Radio Linguistica. Milan
Bonjour.
Kundera a dit: l'Europe n'a pas réussi à penser sa littérature comme une unité historique. Et je ne cesserai de penser que c'est là son échec irréparable. Vraiment irréparable. Aujourd'hui, nous vous présentons des initiatives qui essayent de le réparer. Je souhaite la bienvenue à Arnaud Pasquali de la Direction générale éducation et culture qui gère le programme Europe créative et dans ce cadre, le prix de littérature de l'Union européenne. Bonjour Arnaud.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Et puis, j'ai invité aussi Antonio Parodi, qui a fondé Libre Book, une librairie européenne qui est européenne aussi dans le sens multilingue de ce terme et qui se trouve à Ixelles, près de la porte de Namur. Bonjour Antonio.
Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci, merci pour l'invitation.
Commençons par le programme Europe créative qui donne soutien à la culture européenne. Racontez-nous, s'il vous plaît, un peu plus sur le programme et les initiatives qu'il soutient.
Oui, donc le programme Europe Créative vient d'être adopté pour les 7 prochaines années. C'est la continuation du premier programme Europe Créative qui avait été lancé en 2014 et qui lui-même faisait la suite des programmes médias et des programmes culture. Les objectifs sont en continuité avec les générations précédentes. Les objectifs de ce programme, c'est soutenir tous les secteurs culturels et créatifs en Europe pour les 7 prochaines années, et en particulier avec pour objectif de promouvoir, de renforcer la diversité culturelle et créative en Europe et de renforcer la compétitivité des secteurs culturels. Vous savez très bien que les secteurs culturels non seulement doivent faire face à la crise énorme du Covid, mais d'une manière structurelle, la difficulté en Europe, c'est que la diversité est extrêmement riche en termes de biens culturels, d'expressions culturelles, d'artistes, de créativité, mais qu'elle a parfois du mal à circuler et à traverser les frontières. Donc cette diversité culturelle, elle est là, mais elle n'est pas toujours accessible à tous. Donc l'objectif du programme Europe Créative, c'est vraiment de faciliter la circulation des œuvres, la circulation des artistes, la circulation des professionnels et la circulation des idées partout en Europe, et en particulier de favoriser la circulation du contenu et d'accompagner les changements du secteur, notamment environnementaux. Les changements numériques et de favoriser le rôle que la culture peut jouer sur nos sociétés en termes de cohésion, en termes d'élargissement du public, en termes de bien-être culturel, en termes de meilleure participation des citoyens et des Européens à la culture. Alors, ce programme a 3 volets. Un volet, ce qu'on appelle média, qui s'occupe du film et de l'audiovisuel. Un volet culture, qui s'occupe de la quasi-totalité des autres secteurs culturels, que ce soit le livre, la danse, le théâtre, l'opéra, la musique. Enfin, bon, bref, tous les secteurs culturels, hormis le livre et le film, qui sont gérés par le programme média. Et un volet cross-sectoriel pour favoriser la rencontre entre le monde du film et les autres secteurs. Les priorités du programme, elles reflètent évidemment les priorités de l'Union européenne: cohésion sociale, bien-être, relance européenne, défi, bien sûr, numérique. Ce programme a vu son budget augmenter significativement, ce qui prouve à la fois son efficacité et, je crois, l'importance que les États membres et l'Union européenne en général apportent à la culture et l'intérêt que cette culture peut avoir sur le, sur l'Europe, sur son dynamisme et sur son bien-être.
Bon, une des initiatives de l'Europe créative, c'est le prix de littérature de l'Union européenne, au European Union Prize for Literature, et qu'il ne faut pas confondre avec d'autres initiatives comme le prix européen de littérature ou le prix du livre européen. Alors, qu'est-ce que c'est ça, ce prix? Quand est-ce qu'il a été fondé et quels sont ses objectifs?
Oui, c'est tout à fait ce prix de littérature de l'Union européenne, je crois, est tout à fait significatif et symbolique de type d'action que le programme Europe Créative peut mener. Ce prix, il a été décidé et lancé en 2009 avec l'objectif de promouvoir la diversité et la créativité de la scène littéraire européenne. Encore une fois, il y a une richesse absolument incroyable de la littérature en Europe. Mais évidemment, pour qu'elle puisse être accessible à tous et qu'elle puisse circuler, il faut qu'elle soit connue. Et puis, il faut qu'elle soit traduite. Combien de citoyens ont la chance de lire des livres qui viennent, je ne sais pas, de Pologne quand ils sont au Portugal, des livres portugais quand ils sont en Bulgarie, et des livres finlandais quand ils sont à Malte? Notre objectif, c'est de donner envie et de promouvoir cette diversité, de promouvoir les auteurs émergents, les nouveaux auteurs qui viennent des différents pays de l'Union européenne, et d'inciter à la fois les éditeurs étrangers à acheter les droits et à les traduire, et puis surtout aux lecteurs de les lire. Donc, nous avons mis en place ce prix qui, chaque année, met en lumière une douzaine d'auteurs, ce qu'on appelle émergents, c'est-à-dire qui ont écrit entre 2 et 4 livres de fiction jusqu'à présent, et qui, avec un petit coup de pouce, avec un peu de promotion, pourraient avoir une carrière internationale plus évidente, plus facile. Donc, ce prix, il est organisé par un consortium des organisations qui, on pense, sont les plus ou parmi les plus représentatifs du secteur du livre en Europe. Il s'agit de la Fédération des éditeurs européens, il s'agit de la Fédération internationale et européenne des libraires et du Conseil des auteurs, de la Fédération des associations européennes des écrivains, pardon, le terme complet en français. Donc, ce sont les trois organisations à la fois les plus représentatives au niveau européen et surtout représentatives des trois piliers ou des piliers principaux du secteur du livre, en tout cas de la création, que sont les éditeurs, les écrivains, évidemment. Sans eux, rien ne se fait. Tout aussi important, les libraires. Je crois que Antonio ne pourra pas me contredire en disant que les libraires sont particulièrement importants pour favoriser l'accès aux livres, et en particulier aux livres les moins, disons, les moins évidents ou les moins connus, ou en tout cas ceux venant des pays qui sont peut-être moins bien représentés d'une manière générale dans nos librairies.
Eh
Donc le
bien,
prix,
oui.
pardon, le prix c'est
Oui.
jusqu'à présent c'est 13 éditions, 148 auteurs récompensés provenant de 41 pays. Donc on
Eh
est
bien, le
assez.
lauréat de 2021 vient d'être nommé. Alors, pourriez-vous donner quelques indications sur la procédure, les critères? Bon, le critère, vous avez déjà plus ou moins nommé, et la remise de prix.
Voilà, donc on vient d'annoncer que 13 auteurs ont été été récompensés. C'est des auteurs qui viennent de pays aussi divers que l'Albanie, l'Arménie, la Bulgarie, la Lettonie, le Portugal, la Slovénie, la Suède, la Tunisie même. On est content de d'avoir la Tunisie comme pays participant au programme Europe Créative. C'est le seul pays qui, a priori, participe. Seul pays qui ne serait pas sur le continent européen, qui participe quand même au programme Europe Créatif et donc peut être nommé comme avoir un de ses auteurs nommé comme gagnant du prix. On veut que ce prix soit aussi divers que la littérature doit, que la littérature est en Europe. Donc ces auteurs sont sélectionnés par des jurys nationaux qui se réunissent. Les jurys nationaux sont aussi représentatifs de la scène littéraire nationale, c'est-à-dire les jurys nationaux aussi sont composés de libraires, d'éditeurs, d'auteurs et de traducteurs. Évidemment, les traducteurs sont essentiels dans cette chaîne du livre et ils suggèrent une shortlist et in fine, il suggère un gagnant au consortium qui gère le prix et qui entérine le choix. Donc, ces 13 gagnants seront invités à une cérémonie à Flagey le 9 novembre, qu'on espère une cérémonie enfin de nouveau in situ avec du public, avec des hommes politiques et surtout avec les auteurs de tous ces pays représentés. Je pense qu'elle sera aussi diffusée en direct sur Internet. Évidemment, il faut vérifier cette information parce qu'avec le Covid, on a eu quelques petites surprises. Et donc, mais en tout cas, le plan, c'est le 9 novembre à Flagey pour célébrer ces 13 auteurs qui viennent de pays les plus divers. Ce qui est sympathique dans cette cérémonie, c'est que les auteurs lisent aussi leur littérature et leurs textes dans leur langue originale. Bon, pas pendant 3 heures, mais on a la chance d'avoir la musique de la langue, de leur langue nationale, et parfois c'est la première fois que certains peuvent avoir la chance d'entendre la musique. Le maltais, le letton dans leur langue ou l'arménien dans leur langue nationale. Ça, c'est un aspect très sympathique auquel on est très attaché. Et je voudrais juste souligner qu'ils n'ont pas juste un prix financier ou une cérémonie. Ils auront la chance de participer à des événements qui seront organisés dans les librairies, dans les foires du livre, à Francfort, dans la plus grande foire du monde. Et ces événements sont organisés par le consortium qui organise le prix et que nous finançons évidemment.
Et ça mènera peut-être à ce que ces livres soient traduits.
Voilà, évidemment, c'est le but du jeu, c'est que ça déclenche des achats par les éditeurs du monde entier, en particulier en Europe, pour que ces livres soient traduits, promus et surtout, évidemment, lus par les lecteurs d'un grand nombre de pays européens ou dans le monde. Et effectivement, c'est important que vous mentionniez ce souci de la traduction. La traduction, pour un éditeur, ça reste un risque important. Bon, évidemment, quand il prend Harry Potter, c'est un risque un peu moins important. Mais quand il s'engage sur un auteur qui n'est pas encore connu sur un territoire, c'est un risque important. C'est un coût, évident, puisqu'il faut payer les coûts de traduction, il faut payer les coûts de promotion, il faut payer la mise sur le marché, etc. Et donc c'est un pari. Et pour les aider dans ce pari, le programme Europe Créatif propose des aides à la traduction aux éditeurs européens quand ils s'engagent à traduire. Pas seulement les prix de l'Union européenne, hein, bien entendu, mais qui s'engagent à traduire des livres venant d'une grande diversité de pays. Le programme Europe Créative qui vient de se terminer, le 2014-2020, a soutenu, par exemple, plus de 3 700 traductions. deux livres qui viennent de vraiment tous les pays participant au programme. Donc, ça fait à peu près une quarantaine de pays. Et on est fiers que ces livres vraiment sont représentatifs de la diversité des langues, de la diversité des voix et de la diversité de la créativité en Europe. Je voudrais juste, si vous permettez, juste d'une manière générale, élargir un peu la politique du livre de l'Union européenne, et en particulier ce qu'on essaye de mettre en place à travers le programme Europe Créatif. On a vu que nous avons un prix, nous avons des soutiens financiers aux éditeurs pour la traduction. Nous sommes aussi, et je pense que ça va intéresser vos collègues et nos collègues traducteurs, nous avons mis en place un groupe de réflexion avec les États membres sous l'égide du Conseil de l'Union européenne, un groupe de réflexion pour réfléchir et proposer des recommandations sur la façon dont on peut renforcer le secteur de la traduction en Europe, évidemment en particulier le secteur de la traduction littéraire et d'une manière générale aussi la traduction pour le film, pour le théâtre et même pour la musique. Donc on est en train de réfléchir avec des experts qui sont à la fois traducteurs dans leur pays ou représentants du ministère de la Culture ou représentants d'institutions publiques de soutien aux livres sur la façon dont on peut renforcer le statut des traducteurs, leur formation initiale, leur formation continue, comment ce statut peut être renforcé, comment la légalité des contrats qu'ils ont avec les éditeurs peut être assurée, comment ces traducteurs peuvent être au courant de leurs droits et puissent se défendre. Encore une fois, a priori, la plupart des éditeurs sont très soucieux de ces principes-là. Mais parfois, certains éditeurs oublient certaines conditions, etc. Donc, l'idée, c'est de renforcer cet aspect-là, que les traducteurs soient très acteurs de leur carrière. Et puissent se fédérer et donc avoir une vie professionnelle qui leur permet de vivre de leur profession si possible. Donc ça, c'est un groupe de réflexion qu'on est en train de mener et bien entendu on est en lien avec la DGT des bonnes pratiques type les concours comme Juvenes Translatores ou European Master in Translation, le réseau de master en traduction sont étudiés et sont mis en avant comme des bonnes pratiques qu'on peut promouvoir, qu'on peut augmenter et qui peuvent peut-être que les États membres peuvent peut-être suivre.
C'est un sujet extrêmement important et je pense qu'il faudra consacrer juste une édition de Radio Linguistica à ce groupe de réflexion et ses résultats. Alors, si vous pouvez m'informer dès qu'il y a des résultats qu'on peut déjà décrire, présenter, alors là, j'aimerais bien faire une émission consacrée exclusivement à ce projet.
Je vous donne rendez-vous en septembre parce qu'on aura probablement fini nos réflexions et le rapport sera, sinon fini, du moins en phase finale. Et les recommandations seront probablement présentées à Francfort et dans d'autres arènes ou dans d'autres lieux.
On y reviendra donc. Alors, sur le site d'Antonio, qui est librebook.eu, j'ai trouvé ce très beau logo avec une bicyclette et des livres. Et j'ai entendu, ou j'ai lu quelque part la belle phrase, le livre, c'est la bicyclette de l'esprit. Alors, j'y ai pensé tout de suite. Eh bien, Antonio, Quelle a été ton idée de fonder ta librairie et quelle est sa spécificité?
Mais donc, ça fait maintenant 7-8 ans que j'avais démarré avec cette idée, ce projet. La librairie a ouvert physiquement en 2016. Donc, ça fait maintenant 5 ans que LibreBook existe. Alors, en effet, l'impulsion de base, c'était le fait, bon, d'abord, ma famille est multilingue parce que bon, moi, je suis italien, ma femme est allemande. Nos trois enfants sont nés en Belgique, toujours été à l'école francophone, donc d'un coup, nos conversations se passent en trois langues. Et donc, c'est une condition qu'on retrouve de plus en plus à Bruxelles, dans d'autres villes, dans beaucoup d'autres villes dans le monde, mais à Bruxelles, voilà, c'était déjà reporté il y a quelques 187, 8 nationalités, bon, presque 180, voilà, presque 200 nationalités et qui se côtoient, qui se mélangent, qui se croisent. Naturellement, il y a tout le personnel qui travaille pour les institutions de l'Union européenne et pour voilà tous les organisations autour. Donc voilà, ça fait effectivement pas seulement une masse, mais ça fait vraiment un effet de croisement. Et alors avant, maintenant je ne veux pas dire que c'est une première, mais effectivement le multilinguisme à Bruxelles au niveau de la littérature, des librairies, n'était pas vraiment très 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 poussé. Il y a eu quelques expériences, il y a quelques expériences, voilà. Alors je me suis dit, voilà, comment est-ce que montrer cette côté multiculturel, multilinguistique de Bruxelles? Et comment partir, comment faire? Effectivement, le European Prize for Literature était une source d'inspiration, parce que alors là, j'ai retrouvé en fait tous les un grand nombre d'auteurs, de livres, d'éditeurs, et comme vous l'avez cité après, ensuite, des traducteurs. Et donc, en effet, voilà, d'un coup, j'ai pu tisser des liens avec des éditeurs. Donc maintenant, LibreBook peut compter sur des contacts avec tous les pays européens où on a à la fois des distributeurs, des fournisseurs, des distributeurs de livres ou des relations directes avec des éditeurs. Et notamment des éditeurs qui sont spécialisés dans la traduction. Et je répète notamment, naturellement, le français et l'anglais qui sont les deux langues véhiculaires au principal de la traduction, sans oublier l'italien et l'allemand et l'espagnol. Voilà, naturellement, on parle des voilà des. Après les combinaisons, comme Arnaud l'a dit, peut être les on peut avoir des auteurs bulgares traduits en letton ou des auteurs suédois traduits en portugais, etc. Donc en islandais, etc. Donc vraiment le prix et pour moi, était, comme j'ai dit, une source de, pas seulement d'inspiration, mais aussi pour la mise en œuvre de la librairie. C'était une base extrêmement importante.
Eh
Alors.
bien, comme beaucoup de librairies, vous organisez aussi des événements. Alors, racontez-nous un petit peu sur votre programme.
Oui, naturellement, il y a un avant-Covid, un pré-Covid et un post-Covid. On est encore dans le. Voilà, on est en train peut-être de sortir de quelque chose, je ne sais pas. Comme tout le monde, ce n'est pas clair. Et parce que, naturellement, faire des événements demande une programmation. Alors, la programmation, naturellement, est dans les situations d'émergence continue. C'est pas possible, surtout pour des petites structures. Bon, on l'a vu pour les grands. Les grandes structures, ils ont. Donc, alors, nous avons, par exemple, collaboration avec le Festival Passaporta. Hein, alors, le Festival Passaporta qui s'est passé il y a quelques mois, le mois de mars, oui. Et alors là, Passaporta a fait le choix que l'auteur soit présent physiquement dans un lieu culturel, un théâtre, un café littéraire, une librairie. Et comme voilà, À un moment donné, le public ne pouvait pas être présent, l'auteur était quand même présent. Et nous avons en fait reçu, accueilli une auteure non, je veux citer, c'est Alexandra Loune. Alexandra Loune, d'ailleurs, a écrit des textes sur le multilinguisme et aussi un petit texte. Elle est une auteure d'origine polonaise, mais qui écrit ses livres en espagnol. Et elle est traduite dans plusieurs langues. Donc voilà, c'était l'auteur choisi pour le seul événement, en fait, qu'on a pu accueillir, on a pu accueillir, pardon, dans cette période. Donc c'était d'un point de vue, voilà, de l'événementiel, malheureusement, assez difficile. Ceci dit, bon, vous voyez une photo, il y a déjà quelques années, hein, la librairie s'est transformée, il y a eu une évolution continue. Maintenant, mais voilà, c'était un exemple. D'ailleurs, voilà, je parle de ça. On avait fait une série de rencontres sur les romans dystopiques. Hein? Alors, il y a, bon, vous connaissez pas les auteurs, mais il y a un auteur italien qui a écrit en anglais, il y a une auteure maltaise qui a écrit maltaise, pardon, hein? Et un auteur bosnien. Et alors, les trois, ils ont écrit dans les trois langues que j'ai citées, des romans, et on a fait une série de rencontres sur les dystopies, et d'ailleurs, c'était spécifiquement des dystopies européennes sur le futur de l'Europe. Donc, c'est un petit exemple, qui vient directement de la photo que vous montrez. Alors, on espère naturellement qu'à partir de septembre, de pouvoir répondre. Alors, on travaille en partenariat, comme j'ai dit, c'était Passaport, mais c'était aussi le prix de l'Union européenne pour la littérature, et notamment pendant la foire du livre de Bruxelles, que cette année, bon, pour la première fois, espérons la dernière fois, a eu lieu d'une façon virtuelle et donc n'a pas pu développer son potentiel, mais les années précédentes, et Arnaud, il se souvient bien parce qu'il a participé avec ses collègues. On a reçu, quand je dis on a, parce que nous on est partenaire en effet de la Commission européenne, spécifiquement de la représentation de la Commission européenne en Belgique, qui promue le multilinguisme et la présence du prix. Avec le consortium dans la foire du livre de Bruxelles. Et donc, nous avons une collaboration avec UNIC, que c'est la plateforme, UNIC Brussels, c'est la plateforme des instituts culturels et des attachés culturels à Bruxelles. Et on organise un mini-programme de littérature européenne avec la présence des auteurs, des traducteurs, des éditeurs. Voilà. Donc, voilà, on est dans ce partenariat et espérons bien de le reprendre au printemps prochain.
C'est-à-dire, si j'ai bien compris, on peut aller sur votre site web, librebook.eu, et s'inscrire et s'abonner. Alors, ces gens recevront le programme, les invitations aux événements dans la librairie. C'est comme ça?
C'est exactement ça. Je veux encore citer un événement qui a eu un discret succès grâce pardon, c'est bien, word of mouth, le passe-parole, le comment, ouais, la bouche-oreille, pardon, c'est bien, c'est la bouche-oreille. La bouche-oreille. Et c'était un mélange d'ailleurs de mots, sarau de poésie, sarau poetry, sarau c'est un mot portugais brésilien. Mais en effet, c'était on a dédié une soirée un vendredi, chaque vendredi, le dernier vendredi du mois, à la poésie multilingue. Donc, on a dit, voilà, on a invité à Bruxelles, bon, j'ai cité une des auteurs, mais il y a un certain nombre d'auteurs multilingues ou qui parlent des langues différentes et qui écrivent dans langues différentes. Alors, il y a aussi des poètes. Il y a des groupes de poètes, hein, donc on invite deux, trois poètes, mais tout le monde qui participe peut lire un texte, que ce soit un texte classique, à lui, à elle, ou d'un ami, voilà. Et on a eu toujours un bon public à chaque rendez-vous grâce à cette bouche-oreille. Et ça avait l'air, voilà, on entendait, comme disait Arnaud, en parlant de la cérémonie de l'UPL, dans laquelle on entend des langues, beaucoup de langues différentes. Voilà, pour nous, cette petite occasion du vendredi de le Sarao of Poetry, dans lequel voilà, on entend toutes ces langues de nos amis poètes ou aspirants poètes. Voilà.
Encore une fois, c'est donc quel vendredi?
Alors c'était, j'espère de reprendre en septembre, c'est le dernier vendredi du mois.
D'accord. Eh bien, bon, nous voici malheureusement déjà arrivés au terme de notre émission, mais je répète, donc la remise de prix pour le prix de littérature de l'Union européenne sera le 9 novembre. Nous espérons bien que ça soit possible en présence, dans le flagey, autrement virtuellement, donc le 9 novembre. On va peut-être consacrer une autre émission à cet événement et présenter un petit peu les auteurs. Et puis, bon, il y a la librairie de Antonio Parodi, Libre Book, à la chaussée de Wavre 128, à Ixelles, près de la porte de Namur, mais vous pouvez tous vous inscrire sur son site et vous recevrez le programme. Merci beaucoup et à la prochaine fois.
Merci. Merci beaucoup.